Vous souhaitez la bienvenue pour cette nouvelle table ronde organisée dans le cadre du 11e printemps des SHS, qui est portée donc par la Maison des sciences européennes, des sciences humaines et sociales. Elle est représentée ici par sa directrice, Martine Benoît, et puis son directeur adjoint qui se cache là-bas au fond, Richard Sobel. C'est évidemment pour moi un très grand plaisir de nous accueillir et puis surtout d'accueillir mes invités, dans la mesure où on a ici l'occasion de discuter d'un ouvrage, mais aussi de le réinsérer dans quelque chose de plus large, dans la mesure où le programme de ce printemps des SHS, je le montre ici, il est consacré au couple science et fiction, et il est illustré par la célèbre formule « et si ?». Et ça ouvre évidemment une quantité de possibles extraordinaires. Alors pour l'historien que je suis, c'est à la fois quelque chose tout à fait intéressant. On pourrait imaginer plein de choses, et puis en même temps, ça ouvre des gouffres de perplexité, dans la mesure où, en général, on essaie quand même d'être un minimum rigoureux sur ce qui s'est passé, et pas forcément d'imaginer ce qui ne s'est pas encore passé. Alors aujourd'hui, de fait, on est tout à fait dans la ligne de ce programme, puisqu'on va discuter, on va présenter un livre au titre évocateur, et que je vous montre ici, encore une fois, « L'autre siècle, et si les Allemands avaient gagné la bataille de la Marne ?» Là, on est effectivement dans la « entre guillemets science-fiction ». Ça fait même presque un petit peu peur. Hein. Après, je vous laisserai lire et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur pour voir qu'il y avait une alternative, au moins potentielle, et on va voir un peu comment est-ce que ça va s'organiser. Alors, quand on m'a demandé de reprendre, d'animer cette table ronde, j'ai commencé à regarder un petit peu ce que ça évoquait chez moi, et puis il y a plusieurs éléments qui sont remontés à la surface. La première chose, c'était l'extrait des Pensées de Pascal qui dit que si le nez de Cléopâtre eût été plus court, toute la face du monde en aurait été changée. Voilà, on est au cœur du sujet. On est un petit peu plus tard, puisqu'on est au début du XXe siècle, mais la question se pose. Il y a un autre texte qui est celui d'Hugo dans Les Châtiments. Le soir tombait, la lutte était ardente et noire. Il avait l'offensive et presque la victoire. Il tenait Wellington accablé sur un bois, sa lunette à la main. Il observait parfois le centre du combat, point obscur où tressaille la mêlée effroyable et vivante broussaille, et parfois l'horizon sombre comme la mer. Soudain, joyeux, il dit « Grouchy, c'était Blücher ». Voilà. Et si ça avait été Grouchy plutôt que Blücher, eh bien, Napoléon aurait sans doute gagné à Waterloo, et la face du monde en aurait été changée. C'est sur une autre bataille qu'on va se déplacer, et puis surtout sur ses conséquences immédiates. On est là face à un courant historiographique, ou en tout cas une réflexion qui connaît un certain succès ces dernières années, celui de la réalité alternative ou de l'histoire contrefactuelle. Je vous renvoie également à l'ouvrage qui est paru il y a quelques années, sous la plume de Quentin de Lermoz et de Pierre Singer-Avelou, qui s'appelle « Pour une histoire des possibles » et qui propose, elle aussi, mais sur le temps plus long, une réflexion sur ce qui aurait pu être, et il y a beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes. Quand on en revient à notre ouvrage, à nous, si j'ose dire, on a un ouvrage avec une petite douzaine d'intervenants, ce qui donne aussi une forme de polyphonie à cette présentation, avec également une recherche assumée de mélanger les genres. Et la table ronde qui est là, les invités qui sont autour de moi, en sont une illustration, dans la mesure où on a des auteurs, plusieurs, et je vais vous les présenter dans l'ordre d'apparition, si j'ose dire. Alors d'abord, Xavier Delacroix, qui est journaliste essayiste et surtout qui est ici le directeur de l'ouvrage, la romancière Cécile Ladjali, et puis l'historien Pascal Horry. Ça veut dire aussi qu'on est face à des possibilités différentes d'interpréter, d'imaginer, d'entrevoir ce qui aurait pu être. Alors j'ai une première question, et puis après on reviendra progressivement sur ce que vous avez écrit et puis sur la façon dont vous avez perçu les choses. On a là donc trois horizons, trois façons d'écrire aussi. Est-ce que lorsqu'on est historien, romancière et ou journaliste essayiste, on aborde le projet de la même façon? Est-ce qu'on a la même ligne de conduite? Est-ce qu'on se projette de la même façon? Je vous laisse commencer. Dites-moi qui.
Oh. Et c'est la galanterie. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là. Bonjour à tous. En tant que romancière, femme de lettres, et versant à peu près jour et nuit dans la littérature, puisque j'enseigne également les lettres. Voilà, je me sentais, face à un tel sujet, à une telle gageure, exonérée d'un certain nombre d'obligations, peut-être... non pas formelle, mais de fond, et j'allais m'en remettre entièrement à la forme et à toutes les nuances que la littérature permet, autant par rapport à la puissance du symbole, de l'allégorie, de la musique, des images qui parcourent le texte littéraire pour signifier un propos extrêmement ambigu, même avec lequel, au départ, je suis pas vraiment d'accord. J'étais même assez, sur le plan philosophique, gênée par la proposition malhonnête de Xavier Delacroix, que j'adore et à qui je n'ai pas pu dire non. Mais je lui ai vraiment dit que, déjà, je manque de culture historique, je me sens absolument pas légitime, mais j'allais faire mon travail de romancière parce qu'il n'y a que lorsque je me balade en littérature, que je fais un travail honnête. Et donc j'ai saisi, je me suis emparée de ce propos par le truchement des lettres et de tout ce que la subjectivité d'un propos littéraire et la subtilité d'un propos littéraire permet.
Voilà. Alors, des lettres à plusieurs niveaux, hein, puisque c'est les lettres et la littérature, mais dans votre texte, il y a une dimension épistolaire aussi qui permet de finalement inventer encore plus de choses que ce qu'on pourrait imaginer. Pascal ?
Oui, quand Xavier Delacroix, c'est vraiment par lui que tout est advenu, quoi. Me semble-t-il, c'est comme ça que je l'ai vécu, comme Cécile, m'a demandé de participer à l'aventure, c'était pour ce qui finalement était le dernier chapitre consacré à la culture, au sens le plus large, enfin, c'est comme ça que j'ai toujours conçu l'histoire culturelle. C'est vrai qu'il devait se douter que je ne dirais pas non, dans la mesure où les historiens sont, alors pour quelques-uns, mais là ça n'entre pas en ligne de compte, parfois confrontés à la création artistique, hein. Certains ont franchi le pas du roman, etc. Mais je dirais pas que c'est ça, puisque au fond, les chapitres confiés aux historiens doivent, et on a vraiment le jouet de jeu, se présenter comme des chapitres d'historiens avec notes en bas de page. D'ailleurs, personnellement, je n'avais même pas pensé au départ aux notes en bas de page, j'ai vu que tous les collègues en faisaient, et donc j'ai mis dans les notes en bas de page des choses encore plus énormes que ce que je mettais dans la tête. Donc, bien entendu, il fallait jouer ce jeu-là. Mais comme c'était un parti, à partir d'un « et si », bon, on peut dire qu'on a fait un travail, il faut le dire, un peu littéraire, mais c'est, à mon avis, surtout un enjeu théorique. L'enjeu théorique étant effectivement le déterminisme, quoi. Le nez de Cléopâtre, l'effet papillon, etc. Le battement d'aile d'un papillon, etc. Donc ça c'était assez étonnant pour qu'on dise oui, enfin, c'est quand même excitant. Et puis après, on se découvre. Alors moi, je ne parle que de mon cas, je ne peux pas me mettre à la place de mes collègues. D'abord, je n'ai pas reculé devant les conséquences, alors que je pense que certains historiens pouvaient être effrayés. Bon, je ne vais pas anticiper sur ce que va dire Xavier, mais il y a eu des historiens qui sont descendus du train. Bref, moi, mon interprétation, c'est que leur esprit de sérieux a été trop fort. Et par ailleurs, on découvre, évidemment, par la songerie à haute voix que représente ce type d'exercice, on découvre, évidemment, qu'on va dans une certaine direction. Alors, je ne suis pas le seul, et du coup, ça a donné le titre, que bien sûr j'ai donné après avoir écrit le texte au chapitre, La très belle époque, un jeu de mots sur belle époque, encore une plus belle époque après la victoire allemande, c'est-à-dire, moi je n'avais pas d'idée préconçue, mais évidemment, je suppose que j'ai avoué beaucoup de choses sur un supposé optimisme, c'est-à-dire qu'il me semble que grosso modo ce que je dis va plutôt dans un sens positif que dans un sens négatif. Ça, c'est purement autobiographique, mais j'ai été étonné parce que je ne m'étais pas... Puis je me suis permis au passage même de sortir du secteur culturel. D'ailleurs, quand on dit, par exemple, c'est en lien avec le texte de Cécile, sans qu'on se soit lu, hein, mutuellement, que, par exemple, l'artiste raté, entre guillemets, Adolf Hitler, finit directeur de l'école des Beaux-Arts de Berlin. Bon, c'est, d'ailleurs, même à un moment, je dis, ce défenseur de l'art académique, ben, on va risquer un mot, c'est une sorte de dictateur. Évidemment, le mot est un peu excessif quand on parle d'Adolf Hitler, mais un dictateur des Beaux-Arts, bon, là, on se fait plaisir. Mais très belle époque, dans la mesure où, voilà, j'arrêterai là, je suis parti d'une idée que j'ai défendue dans un texte, entre guillemets, sérieux. D'ailleurs, le début du texte reprend, par mot à mot, un texte que j'avais écrit avant, sur le fait que, d'après moi, donc ça c'est un point de vue théorique, si on se place du point de vue de l'idéologie moderniste, après on peut me critiquer, mais c'était ma thèse, tout à fait sérieuse, le XXe siècle, qui est un court XXe siècle qui pour moi va de 1914 à 1989, 75 ans, pile, trois quarts de siècle, on voit peut-être pourquoi, bien, il est déjà en place en 13-14. Si on fait la liste des avant-gardes, vous faites la liste, enfin vous verrez dans le texte, ça va de Max Planck à Schoenberg, tout est en place avant. Hein, même Duchamp, d'une certaine façon, enfin bref. Donc, le XXe siècle n'aurait servi à rien si on est dans une perspective avant-gardiste, moderniste, etc., futuriste. Et puis évidemment, je démantibule ça ensuite parce que ça se passe aussi sur d'autres plans. Et je me suis payé le luxe d'aller au-delà du bon de commande de Xavier. C'est-à-dire de régler aussi la question israélo-palestinienne à cette occasion-là. Vous verrez comment. Donc c'est quand même évidemment un grand plaisir. Mais en même temps, je pense que, pour parler de l'esprit de sérieux, laissant de côté l'esprit de sérieux, le sérieux de l'exercice, moi j'y crois beaucoup. Et après avoir lu et les textes littéraires et les textes historiens, je trouve qu'on apporte quelque chose. Que c'est pas un coffee table book et puis on pense à autre chose. J'ai l'impression que ça peut faire réfléchir.
C'est un beau livre, mais pas forcément dans le sens qu'on peut lui donner de façon un peu facilement. Xavier.
Alors. Je vais vous raconter un peu la genèse du bouquin pour que vous voyez comment il a pu s'inscrire. Moi aussi, comme Mathieu, j'ai lu des Uchronies quand j'étais plus jeune. Alors, il y en a deux que je vais vous citer, que je vous recommande vraiment de lire. Parler de Napoléon, il y a la mort de Napoléon de Simon Less, où c'est un tout petit livre, on imagine que Napoléon quitte sa zone d'exil, disparaît, se fond dans la foule, se fait remplacer par un anonyme et se promène, erre en Europe. Très beau petit texte. Il y a un deuxième texte assez formidable, peu connu, de Roger Caillois, qui s'appelle Ponce Pilate. Où Caillois imagine que Ponce Pilate, plutôt que libérer Barabbas, il libère le Christ. Que se passe-t-il ? Bon. C'est l'exercice intellectuel, quand dans mes jeunes années, j'ai lu ça, je me dis, tiens, c'est le côté what if, ça dormait dans un petit coin. Et après, il y a eu un deuxième élément qui a été celui des commémorations autour de la guerre de 14. Alors, j'ai toujours fait partie des gens qui étaient très fascinés par la guerre de 14 pour des raisons personnelles, vous verrez, je le raconte aussi un peu dans la préface que je fais du bouquin, parce qu'un grand-père, enfin bref, donc une vraie histoire sur la guerre de 14, et en plus, le côté incroyablement déterminant de la guerre de 14 sur l'ensemble du XXe siècle. Donc je trouvais que c'était un élément suffisamment fort pour essayer de la jouer à contre-pied, sachant que je me suis trouvé un soir dans un dîner avec Stéphane-Edouard Rousseau, qui sont l'un des tout meilleurs spécialistes de la guerre de 14, on s'ennuyait un peu, on ne se connaissait pas, on s'est mis à parler, et on a fait un what if et il m'a expliqué que techniquement et militairement, en septembre 14, les Allemands sont vraiment à deux doigts de passer. Et s'ils passent, ils sont à Paris, et il se passe, ou il pourrait se passer, ce que le bouquin raconte. Le deuxième élément sur la guerre de 14. Le troisième élément qui m'intéressait, c'était de donc demander à des historiens, sans doute les meilleurs dans leur domaine, et ils ont à peu près tous accepté, peut-être on reviendra tout à l'heure sur ceux qui sont, comme disait Pascal, descendus du train, d'accepter de jouer le jeu et d'imaginer, ils sont, à part Pascal qui a eu besoin de l'ensemble du siècle pour parler culture, mais les autres se sont placés, on a souhaité se placer dans les années 20, en se disant, si on embrasse l'ensemble du siècle, ça va donner des choses assez surréalistes. Mettons-nous juste dans les années 20 et voyons à quoi ressemblerait le XXe siècle si on est dans les années 20. Et puis ça, donc, en demandant un spécialiste de l'Allemagne, de la Russie, des États-Unis et de l'Angleterre, évidemment des idées culturelles, et puis de nos deux amis de Delarmoz et Saint-Garavelou sur la partie Asie. Mais là où Cécile entre en jeu, si j'ose dire, c'est que je me suis dit, mettre des historiens comme ça, c'est formidable, mais et si le what if allait aussi sur demander à des littéraires dont c'est le métier, quelque part, de les contraindre eux aussi. C'est-à-dire que c'est l'historien qui d'habitude est contraint et qui là peut se lâcher, aller vers quelque chose qui n'est pas les rives de son fleuve traditionnel, et demander aux littéraires, par contre, de se mettre dans quelque chose qui, lui, est à front renversé, en lui disant, vous allez certes inventer une histoire d'un personnage de ce que vous voulez, mais dans une contrainte qui est quelque chose d'original, qui est le monde tel qu'il ne s'est pas produit. Et ça, c'est un des points que quand je parle de ce bouquin auquel je tiens beaucoup. Pourquoi ? Parce que je voudrais que le lecteur puisse avoir cette réflexion sur le déterminisme. C'est-à-dire de mélanger à la fois l'historien rigoureux qui d'un seul coup dérigorise, le littéraire qui d'habitude part là où il veut, est un peu contraint. Bref, pour que chacun, dans sa lecture, puisse à un moment donné poser le bouquin et puisse aussi se dire « Ah tiens, au fait, et moi ?» Ce que l'on présente en fait comme des déterministes de nos existences, j'ai rencontré ma femme, mon mari, je suis allé dans telle école, comme une espèce de flot qui me rassure, parce que je le présente comme étant évidemment enchaîné. Il y a des moments, si on veut bien faire le pas de côté, ou petit clin amène, mettre un regard un peu différé, de se dire, tiens, qu'est-ce qui se serait passé ? Ça n'a pas forcément d'incidence sur, par définition, notre comportement, mais je trouve qu'en termes de mécanique ou d'objets intellectuels, c'était assez séduisant. Et ça, c'est quelque chose qui me vient d'études que j'ai pu faire dans des endroits extrêmement contraints, genre la rue Saint-Guillaume, si vous voyez ce que je veux dire, où on a eu des profs, des enseignants, qui nous ont montré que l'élection de Mitterrand, c'était absolument normal. Or, trois mois avant, les mêmes disaient qu'ils ne savaient pas qui allait gagner. Donc comment est-ce qu'on fait rentrer au chausse-pied des choses qui sont présentées comme des nécessités, alors que quand on les vit, on a l'impression qu'elles sont toutes sauf nécessaires. Donc le débat un peu tendu dans nos cerveaux entre contraintes et accidents, déterminisme et ce qui peut arriver de façon non prévue, je trouvais ça assez stimulant de le mettre dans un ouvrage, dans un exercice qui, sauf erreur de ma part, je parle sous vos contrôles respectifs, n'avait jamais été fait. C'est-à-dire que des uchronies, il y en a eu, des romanciers qui partent dans tous les sens, on pourrait citer... Là, il y a le bouquin de Roth, quand il fait élire...
Le complot contre l'Amérique,
quand il fait élire... C'est Lindbergh comme président. Enfin, voilà. Des uchronies, il y en a eu, vu Philippe Cadic, le seigneur du Haut-Château. Bah, bon. Mais le fait de mélanger les deux n'avait pas été fait. J'étais très heureux d'avoir eu la possibilité de coordonner ce projet.
Voilà. Mélanger les deux et avoir aussi plusieurs voix. Alors, on est là aussi sur une grille de lecture, une grille d'analyse qui est finalement beaucoup plus complexe à chaque fois. C'est pas pour minimiser la qualité des uchronies dont on vient de parler, mais quand on est tout seul à la manœuvre, c'est sans doute un peu plus simple que de coordonner à la fois des littéraires, des historiens, et de voir un peu ce qu'il en est. Alors, je vais commencer par un what if, ou un if. Y a-t-il des chapitres que vous n'avez pas pu ou été en mesure de faire écrire ? Y a-t-il des angles morts et des regrets ?
Alors, il y a pas de regret, parce que j'ai eu ce que je voulais, si j'ose dire, ce qui n'était pas gagné au départ, parce que quand on réfléchit, quand vous voyez le bouquin, on dit, on part de loin. C'est quand même 2 ans de travail. Identifier les historiens était relativement simple. Les faire travailler ensemble, c'était pas gagné. On se retrouvait à peu près tous les 3-4 mois chez moi, où chacun avait écrit un morceau de copie de manière à coordonner ce qu'il racontait, parce que les historiens, il fallait forcément que ce soit cohérent. Vous verrez, pour ceux qui l'ont pas encore lu, les chapitres se renvoient un peu, parce que par définition, quand on parle Russie, ben on parle Allemagne, quand on parle Allemagne, on parle Angleterre, donc il fallait qu'ils se parlent. Donc ça, c'était pas gagné. Pour répondre à votre question, Mathieu, sur les historiens, puis après on reviendra peut-être une autre occasion sur les littéraires, mais sur les historiens, donc on travaillait ensemble, en lisant les papiers des uns et des autres. Je vais vous faire 3 remarques rapides, surtout pas multiplier la parole. Il y a quelqu'un qui est descendu du train, qui s'occupait de Russie à l'origine, et qui a dit « Non, j'y arrive pas ». Un très très grand spécialiste du monde russe, qui avait commencé à travailler, et qui a dit « Je n'y arrive pas ». On trouvait une très grande spécialiste qui l'a remplacée, qui s'appelle Sophie Curé. Et il y a un autre sujet qu'on a souhaité aborder, et là, ça a été très délicat, mais c'est un beau sujet de débat, c'était la question juive. Parce qu'il y a un grand spécialiste de la problématique juive en Europe au XXe siècle qui était au départ d'accord pour jouer le jeu. Mais s'il n'y a pas de guerre de 14, a priori, on ne va pas aller vers la Shoah. Et si on ne va pas vers la Shoah, ça s'appelle du révisionnisme. Donc il a commencé à rédiger un texte sur la question juive, qu'est-ce qu'il en est, dans les années 20, où c'était l'antisémitisme était plutôt français qu'allemand. Et puis à un moment donné, il a laissé tomber le stylo en disant « je ne peux pas faire ça ». Même si c'est quelqu'un qui a une extrême autorité dans ce qu'il fait, même s'il est émérite et donc il n'a plus de carrière à gérer, ni de voilà, il dit « je ne peux pas faire ça ». Voilà, c'est les deux descentes de train. On parlera peut-être du littéraire, mais voilà.
Alors pour le coup, je me tourne vers mes deux autres invités. À quel moment est-ce que vous avez lu le texte de l'autre, d'autant que vos deux textes se rejoignent ou moins se répondent? Est-ce que vous avez changé quelque chose à la lecture de l'autre pour juste vous réaménager, vous reconnecter, que ça soit plus pertinent? Ou est-ce que voilà, vous aviez votre ligne de conduite et puis quoi qu'il arrive, on ne change rien?
Alors, moi j'avais commencé à donc timidement écrire mon texte, je vais vous dire dans un instant de quoi il s'agit, et j'ai eu la chance, grâce à Xavier, d'avoir accès très tôt dans la jeunesse de l'écriture au texte de Pascal qui était rédigé depuis un moment déjà, et là je me suis dit, le grand Pascal Horry écrit à un moment la même chose que moi, donc forcément ça peut pas être complètement débile ce que je raconte, et parce que effectivement notre petit Tom était devenu directeur des Beaux-Arts à Berlin, et donc moins de frustration, et donc moins de folie, et donc voilà. Donc j'ai un maître, hein, il s'appelle George Steiner, lui il a écrit Le transport de AH, hein. Adolf Hitler n'est pas mort, on retrouve vieux en Amazonie, mais je n'ai évidemment pas parlé un instant de ce texte à Steiner, je pense qu'il serait très très fâché. Donc j'entends très bien ce que tu dis, Xavier, par rapport à ce monsieur qui est descendu du train, parce que voilà, il y a une histoire, il y a quelque chose de très douloureux, et c'est vrai que ce if peut nous emmener sur des terrains qui sont très très ambigus. Donc bon voilà, mais j'ai joué le jeu parce qu'Alori m'a conforté dans l'idée que j'avais le droit de battre ces cartes là. J'explique un petit peu à quoi ressemble mon texte. Alors, j'avais, quitte à faire un truc énorme, je me suis dit, ben, je vais parler d'Adolf Hitler. Mais, comme je le fais souvent quand j'écris des romans et qu'il s'agit de parler de gens très connus, je choisis un témoin oculaire et un personnage archi secondaire qui va prendre en charge la narration pour parler de ce personnage trop énorme, qui est Adolf Hitler, qui à aucun moment dans mon texte n'est nommé. Il y a des périphrases qui le désignent, le patient aveugle, le petit homme, le malade, parce que, en fait, je savais que Hitler était dans les tranchées, enfin, la ligne du fond, on l'appelle comment la ligne du fond, l'arrière-garde, la troisième ligne. Voilà, il n'était pas en première ligne parce qu'il avait des jetons, il était au niveau de tout ce qui était...
Il était messager.
Voilà, il était messager. Donc, il était un peu planqué. N'empêche qu'il a eu... Mais ça, c'était à la fin de la guerre. Il s'est pris du gaz moutarde en pleine figure et il a souffert d'une cécité. Il a perdu la vue. Il a été transporté à Passelwalk, une clinique non loin de Berlin. Et là, un certain Edmund Foster, je tenais mon personnage secondaire, mon témoin oculaire, l'a soigné. Edmund Foster était donc médecin, mais psychiatre, et il a diagnostiqué chez le petit bonhomme aveugle une sorte de cécité hystérique. Hein, c'est comme ça que c'est écrit dans le journal que tenait Foster. Donc, un type qui approchait de près Hitler et qui tenait un journal. J'avais, à travers ce personnage-là, qui écrivait, une sorte de merveilleuse métaphore de l'écrivain à sa tâche. Et donc, j'ai décidé, puisque je me sens donc assez peu à même de faire les liens entre les faits, les êtres, les dates, les lieux, j'ai jeté mon dévolu sur l'esthétique du fragment. Et c'était très pratique dès lors que mon narrateur tenait un journal. Le journal, dans sa forme même, est une forme fragmentaire. Donc c'était raccord avec mes petits moyens. Donc, Edmund Foster tient un journal qui démarre donc au moment où les Allemands ont gagné la bataille de la Marne en 14. Xavier me disait « Attention, Cécile, il ne peut pas être aveugle avec du gaz moutarde puisqu'on commence à en envoyer qu'à la fin de la guerre. » Donc, il se prend juste un obus dans la figure et il est aveugle quand même. Et donc, il est transporté dans le service de Foster qui le soigne, qui l'aide à recouvrer la vue et qui écrit pour nous, hein, lecteurs, dans son journal, que le petit bonhomme ronge son frein, il a une espèce de haine en lui, que c'est tout à fait terrifiant, mais qu'il va l'aider à surmonter cette espèce de d'acrimonie à l'endroit de l'humanité tout entière. Il se rend compte que le bonhomme est versé dans les arts, puisqu'on l'a retrouvé dans ses habits au moment de son hospitalisation, des croquis, il se rend compte qu'il est peintre, enfin, qu'il aimerait même rentrer aux Beaux-Arts. Donc il va intercéder auprès d'un cousin pour que Hitler puisse rentrer aux Beaux-Arts à Vienne. Ça va marcher, en fait. Et donc le gars va être moins frustré, moins monstrueux, et il ne fera pas tout ce que vous savez qu'il a fait en réalité. Donc, Edmund Foster a donc réellement existé. Ses journaux, son journal intime existe. Et donc, il y a plein de notes, mais qui vont continuer jusque dans les années 20-30, enfin, 30 à peine, mais où il réfléchit beaucoup à ce patient aveugle et il identifie clairement un malade mental. Et Foster se suicide, comme par hasard, on l'a peut-être aidé à se suicider, parce qu'il était inquiété par la Gestapo, en 33. Ce type avait la preuve de qui était vraiment, au fond, Adolf Hitler. Donc voilà, j'ai choisi de déplacer mon regard grâce à ce type-là, sa subjectivité-là, à son mode d'écriture. Et puis, dès lors que j'avais cette base-là, narrative, l'exercice est devenu assez facile pour moi.
Voilà. Juste un petit point pour compléter. Hein. Donc effectivement, on est sur une revisitation de ce qui apparaît à l'origine comme un épisode tout à fait mineur. Moi, j'ai beaucoup aimé la dimension de patient aveugle. On a ici la dimension pathologique et puis la dimension de cécité et de redécouverte d'un monde d'après, finalement. Il y a l'obscurité du combat et puis un monde d'après différent, évidemment, qui va transformer finalement en profondeur l'histoire de l'Europe pendant l'entre-deux-guerres, puisqu'il y a un futur non advenu. La mobilisation du personnage à la fois authentique et puis à qui on fait faire des choses ou on fait dire des choses qui sont tout à fait nouvelles, cette capacité qu'a la littérature à combler les blancs des archives, des vraies archives, des vrais documents, et puis entre les deux, la lettre perdue, le document inattendu. Puis ça m'a fait penser à deux autres textes, pour le coup littéraires, d'Ino Buzzati, le petit, pauvre petit garçon, dans le cas où c'est une nouvelle à chute, et où on essaye d'expliquer pourquoi est-ce que Dolphy est devenu Adolphe, et c'est assez intéressant. Et puis sur le même modèle, il y a la biographie d'Eric Emmanuel Schmitt, La part de l'autre, qui est une double biographie de Hitler, qui part d'un point le même, celui qui est votre point d'arrivée finalement, celui de l'entrée ou pas à l'Académie des Beaux-Arts, et qui, sur cette base, va commencer à diverger de plus en plus pour arriver à ce que Pascal propose, ou presque, et où ce qui est effectivement admis. Et donc on est vraiment sur des réinterprétations, des revisitations, et là on voit toute la richesse finalement de l'imagination, et puis également des documents. Alors, Pascal, de son côté, il nous propose un chapitre qui s'appelle donc, il l'a dit, hein, La très belle époque, le chapitre ou la postface inédite de la thèse La belle illusion. C'est ce qui aurait pu ou ce qui n'a pas eu lieu pendant l'entre-deux-guerres en termes d'histoire culturelle. C'est recomposer la généalogie intellectuelle de tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit, avec plein de noms, avec une distribution tout à fait extraordinaire, et puis des gens qu'on voit faire des choses auxquelles on n'avait même pas pensé. Alors, j'en donne un seul exemple, Apollinaire meurt centenaire. Entre autres. On sait à quel point le parcours a été interrompu. Et là, on a la durée pour nous. Donc, Pascal, si vous voulez bien nous en dire quelques mots, et puis après, moi, je reviendrai éventuellement sur deux ou trois parcours qui m'ont beaucoup séduit.
Oui, et Pierre Bourdieu reste un grand spécialiste de la société kabyle, etc. Donc, d'abord, je voudrais rendre hommage à Cécile parce que je trouve que son texte est particulièrement pertinent, j'ose pas dire réussi, non, mais pertinent et très sensible, parce qu'on attend de l'artiste, hein, mais très, très sensible, et rencontre certainement mieux que la plupart des textes d'historiens de la complexité des êtres. Hein, voilà. du fait qu'il n'est pas question d'être manichéen, et puis que, alors c'est ma petite ritournelle depuis longtemps, je pense que on avance sur deux jambes, au moins, on a sans doute 36 jambes, mais au moins ces deux-là. Nous sommes des sociologies ambulantes, là, tous tant que nous sommes, mais nous sommes aussi des psychologies ambulantes. Et évidemment, ça s'appelle ici, si j'ai bien compris, Maison européenne des sciences de l'homme et de la société. Bon, oui, mais effectivement, dans les sciences de l'homme, il ne faut pas oublier le grand monde de la psychologie au sens le plus large, y compris les déclinaisons psychanalytiques, etc. Sinon, une bonne partie de l'interprétation des sociétés tombe à l'eau. Et je pense, alors c'est à moi-même que j'adresserai le reproche, je pense que nous autres historiens, nous avons quand même un déficit de formation, pour simplifier, dans le domaine psychologique, qui fait que bon, nous avons une psychologie de café du commerce quand nous en avons une. Bon, petite remarque. Et en ce qui concerne le fameux Adolphe, on va peut-être finir avec lui après ça, mais c'est vrai que j'imaginais arrivant, donc l'aurait repéré non pas lui qui est autrichien, non pas à Vienne élève, mais directeur des Beaux-Arts de Berlin, c'est pas une erreur, tout simplement parce que, alors ça c'est une idée qui me venait au fur et à mesure que j'écrivais, que je construisais ce déterminisme, c'est que la victoire c'est souvent un piège, quoi. Et que la victoire culturelle, parce que d'abord militaire, politique, géopolitique de l'Allemagne, ça finit par appauvrir l'Allemagne. Bon, ça m'arrangeait évidemment peut-être en tant que Français, à savoir que par exemple, évidemment, ce petit dictateur des Beaux-Arts, dans le sens le plus académique à Berlin, fait triompher le kitsch. Et que donc une partie de l'avant-garde allemande en a par-dessus la tête et émigre, par exemple, vers la France. C'est-à-dire que je me suis découvert en train de dire que, grosso modo, Weimar, c'était désormais Paris, quoi. Et donc, alors, j'ai poussé le bouchon plus loin, c'est-à-dire que, évidemment, ce que la France a raté, c'est récupérer Einstein et Freud. Freud qui divorce de Martha et qui épouse Marie Bonaparte. Marie Bonaparte, qui elle-même, du coup, divorce du prince George de Grèce, qui lui fait son outing quand il devient roi de Grèce, et à ce moment-là, pourra, pour la forme, épouser la jeune Mélina Mercouri, voilà, qui devient quand même ministre de la Culture. Bon. Ah bon, mais c'est pour vous donner un peu une idée. De la même façon, évidemment, l'hégémonie culturelle allemande se traduit par un surcroît de références allemandes dans deux domaines, c'est peut-être aussi là-dessus que vous vouliez m'interroger, qui étaient déjà fortement marqués par l'appréhension allemande, la philosophie et l'histoire. Et que, disons, le destin de Marc Bloch est différent, et le destin de Jean-Paul Sartre, principal disciple de Heidegger, bien sûr, donc qui va s'installer à Francfort. De toute façon, la rue d'Ulm, la Ulmstrasse, la rue d'Ulm est plus germanophone et germanophile que jamais. Et évidemment, le destin de Jean-Paul Sartre, c'est d'aller rejoindre son maître et Hannah Arendt, et de créer un trio, Hannah Arendt qui est l'auteur du Troisième Sexe. Bon, voilà. Et bon, je m'arrête là, mais c'est bon, pour dire que il y a quand même des logiques aussi là-dedans, mais bien entendu, on est, alors, les auteurs littéraires aussi, on est un peu Dieu le Père, voilà, dans cette affaire, parce qu'on décide que un tel va aller à gauche plutôt qu'à droite. Hein, pourquoi est-ce que Louis Aragon va succéder à Charles Maurras au siège de l'Académie française? Maurras meurt effectivement en 53 de toute façon, mais c'est Louis Aragon qui lui succède parce que c'est l'héritier de Maurras.
On voit vraiment toute la richesse hein, de ce qu'on peut faire, imaginer et comme ça construire de façon intellectuelle en termes de production, et c'est assez impressionnant. On voit aussi le poids des circonstances, on en parlait tout à l'heure, hein, les bifurcations qui font qu'à un moment on se décide d'aller dans une direction ou alors on est porté dans une direction ou pas. Moi j'ai beaucoup aimé le parcours de Déa qui finit au firmament de la philosophie.
La sociologie, pardon. On oublie, enfin Marcel Déas, je pense que ça ne dit pas grand monde de la plupart des personnes présentes, mais Marcel Déas reste éternellement comme un fasciste français, d'origine socialiste, bon, sous-catégorie intéressante, mais tout le monde finit par oublier qu'il est sociologue au départ. J'en ai parlé quelques fois à des sociologues, par exemple avec Edgar Morin, et bon, ça ne plaisait pas très beaucoup Edgar, que je parle de... Or, Déas était le golden boy de la sociologie française à la fin des années 20. Il a fait le choix d'une carrière politique socialiste, hein, d'abord, puis fasciste, mais c'était ça. Donc là, j'imagine qu'évidemment, il est le successeur de Bouclé, qui lui-même est le successeur de Durkheim. Donc c'est la troisième génération, et ses disciples s'appellent Raymond Aron et Edgar Morin, et qui le félicitent surtout jamais avoir succombé à la tentation du politique. Voilà.
Encore une fois, on peut tout faire.
Hein. Et pardonnez-moi, très sérieusement, si vous vous intéressez vaguement, il n'y a aucune raison dans cette salle, mais à l'œuvre théorique de Marcel Déas, pour moi, c'est de la sociologie devenue totalitaire. Il y a un regard, parce qu'il a passé son temps après la chute d'Hitler, on y revient toujours, 45 dans un monastère italien jusqu'à sa mort, pendant une dizaine d'années, à écrire ses mémoires. Donc, comme c'était un graphomane, comme beaucoup d'intellectuels, il a énormément écrit. Et ce qu'on lit là-dedans, c'est évidemment une sorte de rêverie d'un monde qui fonctionnerait suivant ses idées de sociologue totalitaire.
Voilà. On apprend également que c'est la German Theory qui domine l'ensemble du monde anglo-saxon, et il y a des, comme ça, des tournées d'intellectuels allemands qui vont aux États-Unis, et puis que la New Wave cinématographique, elle est évidemment américaine et non pas française. Donc voilà, un pas de côté, un décalage qui à chaque fois nous permet à la fois de réinvestir ce qu'on sait ou ce qu'on a déjà observé, et puis de le replacer dans un autre environnement. Et puis il y a également un troisième texte, entre autres, hein, c'est celui de Xavier Delacroix qui fait la préface. En fait, c'est une espèce de lettre, alors lettre à mon fils, qui est datée de Berlin, et j'imagine que c'est pas complètement anodin. Ça m'a rappelé une autre lettre d'un père à son fils, et puis ça nous ramène aussi à notre sujet, c'est le « if » de Kipling, dans la mesure où il y a aussi cette idée, si tu peux supporter d'entendre des peuples d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un mot, alors tu seras un homme, mon fils. » On ne retrouve pas le « si » dans la version française, mais elle est évidemment là. Ce qui veut dire aussi qu'il y a une dialectique forte entre ce qu'on appelle aujourd'hui les « fake news » et puis l'histoire contrefactuelle. Est-ce qu'il y a, comme ça, quelle est la ligne de partage? Est-ce que c'est difficile, finalement, de rester du « entre guillemets bon côté de la ligne » ou est-ce que voilà, c'est un jeu intellectuel, un jeu d'écriture qui a parfois ses dangers?
Alors, bravo cher Mathieu pour avoir mis le doigt sur un truc qui pourrait poser problème. Je vais répondre en deux temps. Ça aussi, c'est un petit côté rue Saint-Guillaume, virgule. Non, le premier, c'est qu'il fallait créer un texte qui, au début, pour le lecteur, puisse le mettre dans l'ambiance. Parce qu'il y a une succession de chapitres, un peu d'historien, enfin, un historien, littéraire, historien. Il fallait trouver une idée qui génère la cohérence. Bon, alors, j'ai trouvé l'idée suivante, c'est d'imaginer à front renversé que serait sorti un livre qui raconterait le vrai XXe siècle, ce que nous on sait être le vrai XXe siècle, et que ce livre se s'avérerait évidemment totalement faux, parce qu'il parlerait d'un génocide, il n'y aurait plus de juifs, il y aurait eu des guerres en Yougoslavie, il y aurait eu des totalitarismes absolument terribles en Union soviétique, et donc que ce livre-là était faux, était une fake news globale, et qu'il convenait de ramener la vérité. D'où l'idée qui me serait venue de demander à des historiens et à des littéraires de remettre les choses en place, pour qu'on joue la double négation. Donc ça me permettait d'emblée de créer le contexte qui justifiait les chapitres qui, par définition, sont écrits par 12 personnes différentes, donc il n'y a pas d'unité de style, c'est aussi délibérément choisi. Donc ça permettait de le faire. Mais ce que vous dites, Mathieu, est tout à fait pertinent. On a eu, quand on était, Pascal était avec moi également à Blois, à ces journées de l'histoire, il y a plusieurs questions qui étaient tout à fait pertinentes sur le problème des fake news. Parce qu'à partir du moment où vous mettez, en gros, les historiens à peu près les plus, enfin bon, parmi ce qui se fait de mieux, que vous mettez ça dans la bibliothèque universitaire de l'université de Lille, et que vous avez de bouillants étudiants qui vont aller mettre dans une dissertation que, écoutez, Pascal Horry, il a marqué qu'Apollinaire est mort centenaire, donc c'est forcément vrai. Monsieur le professeur, et vous me répondez quoi? Et là, vous commencez à prendre les avirons, et vous dites, bon, alors, on raisonne sur un niveau culturel, de background, de compréhension des choses, déjà assez élevé. Mais j'ai pas, enfin c'est la parfaite aporie, là j'ai pas la réponse, c'est-à-dire qu'on se place délibérément sur ce niveau-là et on s'amuse, et on te stimule le cerveau, et comme le disaient Pascal et Cécile, ça donne des, voilà, ça pique, mais dans le bon sens du terme. Mais quand on prend l'objet brut, il est truffé d'erreurs, par définition, vu que c'est l'objet même d'être truffé d'erreurs, et dans le cadre qui est le nôtre. Je ne l'ai pas vu encore, on ne l'a pas rapporté, mais vu ce que l'on voit régulièrement dans les fake news, dans les photos détournées et autres, je m'attends à ce qu'un de ces beaux matins, on nous sorte quelque chose sur... Ben c'est marqué, vous l'avez vu, c'est un prof à la Sorbonne qui l'a dit.
Ce serait une excellente publicité pour le livre.
Au demeurant.
Alors, par rapport à cette histoire de fake news, moi, là, on est
pas du tout dans notre entreprise là-dedans. Je pense bon, c'est Hannah Arendt hein, qui dit que une opinion n'a de validité que si elle est appuyée sur des faits. Voilà. Donc apparemment, nous, ce serait du délire et ce serait même un crime contre l'esprit ce qu'on aurait fait. Bon, Hannah Arendt dit ça. Les faits, d'après Raymond Aron, sont maudits aussi. C'est de ses pensées. Pourquoi ? Parce que les faits sont forcément déceptifs. Et on est arrivé, et là je pouvais parler des fake news, à une époque où on est beaucoup plus séduit par le mensonge, qui nous caresse beaucoup plus dans le sens du poil, que par la réalité, qui est souvent trop exigeante, pas confortable pour nous, nos consciences de contemporains. Et donc voilà, on préfère le mensonge des fake news. Mais nous, c'est pas du tout des fake news. On est, je pense, avec ce travail de l'inversion, dans ce qu'on appelait au XVIe siècle la contre-utopie, les anti-miroirs. Il y a le miroir des princes et il y a les anti-miroirs. Toute cette littérature qui est aussi incarnée par le Fool, le plus beau personnage de Shakespeare, le bouffon, qui a une parole à l'envers. Mais on sait très bien que dans ces esthétiques-là, carnavalesques, très bien définies par Michael Bakhtin dans son grand livre sur Rabelais, on est dans une vérité, mais une vérité inversée, une vérité déformée comme les tableaux d'Anamorphose nous montrent la vérité, mais justement dans ce côté tort, dans ce côté à l'envers, on voit encore mieux le réel. Et nous, c'est ce travail-là de distorsion du réel qu'on a tenté, je pense. Et il y a quelque chose, non seulement de philosophique, d'esthétique, mais de profondément humain et humaniste dans l'entreprise. Rien à voir avec, je pense, les fake news. On parle pas du tout de la même chose.
Provocation, on est d'accord. Mais on est là, voilà.
Non, mais je parlais pas à vous, mais si des gens nous disaient ça, on leur répondrait. Ah non. Qu'on n'aurait rien compris.
Pour le coup, effectivement, il y a...
Mais ils ne nous écouteraient pas.
Non, parce que ce que vous dites est faux. Voilà. Mais on est effectivement sur une ligne de crête assez difficile à tenir. Hein. À la fois être le plus rigoureux possible, imaginer quelque chose qui soit envisageable, c'est-à-dire qui soit potentiellement observable et qui, en même temps, n'a jamais eu lieu. Et on sait bien que de temps en temps, on prend la porte de gauche alors qu'il aurait peut-être fallu ou on aurait pu prendre dans les mêmes conditions la porte de droite et que ça va changer un certain nombre de choses. Et donc là, on est vraiment sur des façons de faire, des façons de penser. Et moi, ça suscite chez moi une dernière question principale qui est celle du matériau. Parce que je suis historien, parce que je m'occupe de la formation des archivistes, la question ici c'est avec quoi est-ce qu'on travaille ? Est-ce que c'est que l'imagination ? Mais je n'en doute, je suis presque sûr que c'est pas le cas. Avec quels matériaux de base on imagine ? Alors pour Cécile, on a déjà une partie de la réponse. Voilà, pour les autres, alors pour vous Pascal et puis peut-être pour vous Xavier et pour les autres, si dans les séances de travail collectif, est-ce qu'il y a des trucs, est-ce qu'on se refile des bonnes adresses ou des bons bouquins, est-ce qu'il y a une méthode ou une recette, ou voilà, comment est-ce qu'on mobilise tout ça?
Je voudrais à cette occasion rendre hommage à Xavier parce qu'il vous l'a dit, il y a eu plusieurs réunions à son domicile et moi je n'avais jamais participé à une aventure de cette forme-là, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment concerté, on a discuté, on s'est engueulé, etc. Et c'est grâce au maître d'œuvre, parce qu'il aurait pu nous lancer et dire « je ramasse les copies dans 2 ans, hein. Point barre ». Et on est quand même venu au rendez-vous. Non, mais je respecte, hein, bon, d'abord. Alors ensuite, on s'est parfois échangé des infos, etc. Dans mon cas, un peu égoïstement, le matériau, c'était la fausse histoire là, qui dit que Jean-Paul Sartre est resté en France et a créé la revue Les Temps Modernes. Il y a une revue Les Temps Modernes, mais c'est pas la même. Non. Bon. Donc moi, je pars de ça déjà. Mais effectivement, c'est pour moi l'obsession, c'était le déterminisme. C'est-à-dire qu'effectivement, on fait un pas de côté, donc on voit, on teste. C'était plutôt ça. Le matériau, c'était la supposée véritable histoire. Et quand on a bougé ces éléments-là, qu'est-ce que ça donne ? Le matériau, c'était aussi des réflexions, mais franchement personnelles, mais enfin, partagée par beaucoup de collègues sur comment fonctionne un système culturel, comment fonctionne par exemple l'acculturation, puisque c'est un vocabulaire qui nous vient de l'anthropologie, que l'anthropologie a d'une certaine façon abandonné depuis quelque temps, peut-être à tort, ça, c'est le problème de l'anthropologie. Mais les historiens ont découvert l'acculturation, les transferts culturels, etc. Et évidemment, c'était l'occasion d'en parler. Et puis, il fallait tenir compte, je maintiens dans mon cas, en tous les cas, je crois que pour mes collègues historiens, c'était la même chose, de quelque chose qu'on ne remet pas en cause. Et ce que je ne remettais pas en cause, c'est jusqu'en 1914, ne serait-ce que pour dire que ça permet de régler le problème d'une bonne partie de... Bon, je maintiens la forme du modernisme. Mais pour vous donner un exemple, puisque même la métaphore du surréalisme a tout à fait inévitablement a été utilisé par Xavier tout à l'heure en disant ça devient surréaliste. Les surréalistes sont peut-être un peu agacés par ce genre d'utilisation du terme surréaliste ou les spécialistes du surréalisme, mais c'est vrai que ce que j'essayais de montrer, c'est que puisqu'on a le futurisme en stock en 1914, on n'a plus besoin, je vais vite, du surréalisme qui a quand même rejoué en partie dans la dramaturgie et au-delà le futurisme. Et donc, moi, je suivais plutôt la logique du futurisme. Donc, j'avais déjà une logique futuriste bien lancée depuis quelques années en 1914 et je la poursuis, en particulier en ce qui se passe en Italie avec les agressions futuristes. Bon. Voilà, donc c'était plutôt ça. Le document, c'était plutôt le matériau. Et le matériau, c'était, bon, bah, y a une certaine histoire et je donne un coup de pied quand même dans cette histoire et je vois comment ça bouge. C'était moins la notion de document, mais il y a des collègues qui ont plus travaillé sur le document, avec des références au document, ça c'est clair.
Alors, pour les historiens que vous pouvez être, ou pour Mathieu, deux petites informations, et à ça. Une, il est dommage qu'à l'époque ça n'ait pas été filmé, c'est quand même assez exceptionnel de voir autour d'une table des historiens s'engueuler sur des événements qui ne se sont pas déroulés. Là, c'est quand même assez surréaliste. Et le ton montait. Il n'est pas question que l'armée machin fasse ça. Et la flotte recluche, mais c'est pas possible. Et alors, tu fais quoi avec la Tunisie? Eh bien, la Tunisie, elle reste pas du tout. Donc là, il aurait vraiment. C'était un grand moment. La deuxième chose, pour revenir sur ce que vous disiez, c'est assez amusant de voir comment on est quand même, quand bien même, on essaye de sortir du carcan et d'inventer. Eh bien, on est quand même sacrément prisonnier du carcan. Parce que pour ceux qui ont lu le bouquin ou qui le liront, il y a des personnages comme Charles de Gaulle à qui il arrive des choses qui ne sont pas complètement étrangères à ce qui s'est réellement passé. Donc c'est plus une réflexion psychologique sur nos manières de penser, de réfléchir, d'agir et de parler. On s'aperçoit quand même qu'on a le cerveau qui est sacrément imbibé. Et quand bien même on essaye de s'extraire, bah, de même qu'il y a la 981, l'attraction terrestre, il y a une forme d'attraction intellectuelle ou d'attraction historique. C'est vraiment difficile d'en être totalement étranger. Mais c'est plutôt rigolo, parce qu'en même temps, pour le lecteur, bah, ça renvoie à des correspondances. Il y a aussi un jeu, qui, si on avait, vous verrez, il y a un certain nombre de noms, on a évoqué un avec le texte de Cécile, mais il y a un certain nombre de noms qui ont eu des... parce qu'on a bien sûr parlé avec des A et d'autres, mais qui ont eu un avenir qui n'a pas été celui qui est décrit dans le bouquin. Donc il faut aussi que le lecteur y trouve des repères. Mais il y a à la fois cette nécessité qu'il trouve ses repères, et en même temps le fait d'avoir la lucidité de se dire, tiens, on est quand même dans un univers qui nous a assez, sinon formaté, du moins organisé la structure mentale, et on n'est pas dans une viscosité totale. Voilà.
Sur ce point très, très clair, moi j'ai assumé le fait qu'il y avait du name dropping, des noms déjà connus, c'était le sable jeu, c'était de se dire, bon, je prends Louis Aragon ou Marcel Déa ou Jean-Paul Sartre, je les garde, parce qu'évidemment, si on allait jusqu'au bout, c'est des inconnus qui s'appellent Dupont, Durand, qui auraient émergé, mais c'était drôle.
Toi oui, mais je pense plus aux historiens, oui, que celui qui s'occupe par exemple de l'Asie, qui fait devenir, enfin bon, voilà, l'Inde devient quelque chose, la Chine devient quelque chose, ça renvoie à des choses que l'on peut voir aujourd'hui, vous voyez, donc on est quelque part un peu prisonnier d'une vision rétrospective du monde, et à quoi ressemble le monde au XXIe siècle? Tiens, est-ce qu'on a vraiment... l'aller-retour est très stimulant, hein, voilà, intellectuellement, en disant qu'est-ce qui relève de... Est-ce que je suis vraiment indépendant? Est-ce que je suis vraiment totalement libre pour écrire? Ou est-ce que quelque part, il y a des faits qui me contraignent?
Et donc ça part effectivement dans des directions qui sont assez surprenantes. Hein. Je reprends rapidement les notes de bas de page dont on parlait tout à l'heure de Pascal, hein, qui fait signer un ouvrage... que je crois avoir lu il y a quelque temps, sur les mots et les choses, par un certain Sartre, parce que bah, y a un certain Michel qui n'a pas vraiment percé finalement. Hein. il a pas tenu le choc parce qu'il n'était pas dans le temps. Et puis des bouquins.
Les choses, c'est les mémoires de Jean-Paul Sartre.
C'est ça.
Hein. Le seul texte qui est publié en français. Pour le reste, c'est écrit en allemand.
Et puis également, je crois que c'est bien un bouquin complètement inventé, Pierre Boulez, « Je suis un compositeur raté », L'Harmattan, 1973.
Traduction d'Antoine Goléa. Donc,
c'est ça.
C'est pour les musicologues, parce qu'Antoine Goléa, le grand critique musical, a écrit ses mémoires en disant « Je suis un violoniste raté », ce que je trouvais très beau. Donc, c'est au second degré, c'est-à-dire qu'Antoine Goléa devient le traducteur. Voilà. Parce que Boulez est essentiellement un grand chef d'orchestre. Ce que disent d'ailleurs tous ceux qui n'aiment pas Boulez, en disant c'est un grand chef d'orchestre. Voilà. Mais vous regarderez aussi ce qui concerne effectivement.
Enfin bon. Ah, il y en a plein. Hein. Après, on retrouve la colonie pénitentiaire, on retrouve même Woody Allen, que j'ai beaucoup aimé au passage.
Oui, oui. Et le fait que c'est au troisième degré, tout ça n'empêche pas cette évolution qui aurait pu être différente.
N'empêche pas la publication de chef-d'œuvre qui s'appelle Achille de James Joyce. Et puis, Schweig de Berg, c'est décalé, c'est à la fois complètement vrai, c'est leur chef-d'œuvre, mais c'est pas tout à fait.
C'est juste le pas de côté.
Voilà, pas de côté.
Bon, alors pour le coup, je reviens sur la question du document, mais le document après, est-ce qu'il y a des archives de cette aventure? Est-ce qu'elles sont conservées dans la cave?
Effectivement. Est-ce qu'il y a des archives
Alors, les historiens donc, ont travaillé en 18 mois à peu près, donc chacun a dû faire à peu près 5 ou 6 versions de son propre texte, donc ça circulait sous une forme informatique, mais donc numérique, mais moi j'ai des prints, donc il y a des choses qui ont un peu changé. Par contre, ce qui s'est passé pour les littéraires, c'est que le brief que je leur ai donné, c'est on est sur un 20e siècle, entre guillemets le tragique en moins, on est dans les années 20, racontez une histoire, à vous. Alors, Cécile a parlé d'Adolphe, mais il y a Leni Riefenstahl qui a un autre destin. Il y a le
tueur en série. Là,
qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la mémoire?
Il y a Landru.
Il y a Landru qui a un autre totalement autre destin, qui devient un homme politique.
C'est bouillant.
Et par exemple, en trois phrases, Jules Bruno démontre bien pourquoi il devient un homme politique. C'est-à-dire que c'est plutôt l'inverse. Landru n'est possible que parce qu'il y a la guerre de 14-18. C'est ça l'intelligence du propos, c'est pas simple.
Et donc, pour répondre à la question de Mathieu, là, il n'y a pas d'archives. C'est-à-dire que si j'ai reçu les textes, il y en a certains justement qui avaient quelques incohérences. Par exemple, il y avait un texte de Pierre Lemaître où il était question d'un parti communiste. Alors, il a fallu que je lui suggère, avec certaines courtoisies, c'est quand même Pierre Lemaître, que ça allait changer, mais voilà. Cécile a parlé de 2-3 bricoles où j'ai pu donner des éléments de contexte ou raboter un petit peu, mais en gros, les textes, les historiens, ils avaient une carte blanche, ils écrivaient ce qu'ils voulaient sur un personnage en se plaçant dans un contexte d'années 20 d'une Europe allemande, on va dire, et pacifiée, et pacifique, et dans laquelle la vie est plutôt belle. Donc pour les archives, bah tout ça existe, mais il faudra que je perce ça. Ouais,
on a besoin aussi de ces éléments-là. Hein. Je rappelle, les littéraires, ils ont une filière qu'on appelle la génétique aussi, qui permet de reconstituer les textes a posteriori, ou en tout cas de reconstituer les mécanismes de leur production, au point même qu'on a inventé des logiciels qui permettent de comptabiliser les différentes les différentes versions, parce que les traitements de texte, c'est une catastrophe pour la littérature. Hein. C'est j'écris une page, elle est mauvaise, je l'efface, elle disparaît à tout jamais. Et après, parfois, je regrette parce qu'il y avait quand même 2 ou 3 trucs qui n'étaient pas si mal dedans.
Il faut jeter. Mais pour les chercheurs, c'est pas bien. Mais en revanche, les écrivains, il faut qu'ils apprennent à jeter. On écrit beaucoup trop et il faut jeter et la littérature s'en porte mieux. Mais c'est vrai qu'après, pour ceux qui font la génétique des textes, il n'y a plus de traces. Voilà. Les chercheurs, c'est pas bien.
Il faut nous en laisser un tout petit peu aussi, quand même. Ce que je vous propose pour la dernière partie de notre intervention, c'est qu'on puisse échanger plus largement. Donc, je vais laisser la parole à la salle et demander si les uns les autres, vous avez des questions éventuelles qui permettraient de compléter ce qu'on n'a pas dit, d'aller dans les angles morts. Voilà. Est-ce que quelqu'un voudrait éventuellement prendre la parole et poser une question? Il y a monsieur là-bas, à qui on va donner le micro pour être sûr qu'on entende bien ce qu'il veut nous dire. Monsieur là-bas.
Bonjour. Alors, dans toute Uchronie, il y a un point de divergence, hein, qui est, mais apparemment, je n'en ai pas trouvé ici.
Qu'est-ce que vous voulez dire par point de divergence?
Par exemple, une décision qui a été prise au bon moment ou au mauvais moment, ou le remplacement d'un général par un autre.
Alors, on n'est pas remonté jusqu'à ce point-là. On a décidé que, parce que techniquement, c'est possible, si vous avez vu le texte d'Audouin Rousseau, il le dit qu'à un moment donné, voilà, la vérité vraie de ce qui s'est passé, alors pour les historiens, c'est que le plan Schlieffen prévoyait l'enveloppement et surtout d'aller jusqu'au bout, et qu'il se trouve qu'à un moment donné, parce qu'ils étaient sans doute un petit peu loin de leurs arrières, les Allemands ont décidé d'arrêter. Et ce qu'expliquent les historiens et Stéphane Audouin Rousseau, c'est que s'ils poursuivent cette offensive-là, les lignes françaises sont en train de lâcher. Le fait qu'ils ne poursuivent pas cette offensive laisse le temps à Joffre de lancer la contre-offensive, et c'est la bataille de la Marne qui allait gagner. Mais cette poursuite d'offensive permettait aux Allemands, Dieu merci, le conditionnel est là, aurait permis aux Allemands de passer. Donc le point de rupture, il est là. Il est d'imaginer, et ça on le met d'emblée, donc on ne le détaille pas, est-ce que c'est le général machin qui aurait dû faire le truc? Non, on le détaille pas, on dit juste que les Allemands passent à ce moment-là parce que la Xème armée, je ne me rappelle plus exactement, Stéphane le dit dans son texte, finit par lâcher. Voilà. C'est ça le point d'entrée qui fait que le front français est renversé et les Allemands sont à balle.
En 80 secondes, en sciences de l'éducation, sur le changement de langue au niveau du système éducatif au Maroc, et elle est partie sur une fiction, sur sa présentation, une fiction, en 2050, la France voilà, décide de mettre toutes les études en latin. j'ai trouvé ça mais extrêmement intéressant sur un propos qui était très court, voilà, de dire bah, je vais vous faire réfléchir d'abord en introduisant pratiquement une hypothèse de science-fiction. Et moi, je trouve que sur des formes... c'est une façon extraordinaire d'intéresser d'autres publics, ou d'intéresser différemment les mêmes publics à la réflexion en sciences humaines et sociales globalement, parce que la question du déterminisme, moi qui ai une formation de sociologue qui ignorait que mon année était sociologue, je trouve ça aussi extrêmement intéressant, donc je le lirai avec beaucoup de plaisir. Et c'était plus un commentaire qu'une question.
Il n'y a pas de souci, c'est parti du jeu.
En même temps, ce que vous dites, cher collègue, ça fait réfléchir, parce que imposer le latin au Maroc dans les années 50, ça me fait penser à des actes qui ont, on va dire, en étant un peu plat, qui ont vraiment eu lieu. Ouais. Maintenant, on n'ose pas dire ça. C'est-à-dire, en particulier, concernant les politiques linguistiques, le fait que si le mot révolution a un sens, parce qu'il est galvaudé, etc., et en même temps, c'est à mon avis intéressant de se poser la question en tant qu'historien, mais où se situe la révolution, s'il y a encore des révolutions? Quand Mustapha Kemal décide que, hein, on va latiniser l'écriture de ce qui était non pas le turc, mais l'ottoman, c'est aussi incroyable que ce que vous dites. Oui. Voilà.
Là, l'étudiant fait référence au fait, alors je ne sais plus en quel sens, mais je pense que le système scolaire marocain est intégralement passé au français. Il va en construction de l'arabisation.
Ah, vous savez qu'en ce moment, ces jours-ci, c'est le Kazakhstan a décidé pour la quatrième fois de changer d'écriture. Et ça résume absolument l'histoire du Kazakhstan de 1630, puisqu'il y a eu le cyrillique, le latin, et que ça a alterné. Que, par exemple, les bolcheviques ont été pour le latin, pour le kazakh en latin, mais le stalinisme est revenu au cyrillique. Donc ça, c'est... On peut se dire, mais non, c'est surréaliste, entre guillemets. Ben non, et ça dit beaucoup de choses.
J'en profite également pour rappeler qu'il y a encore quelques dizaines ou cinquantaines d'années, une partie de la formation universitaire, et en particulier la deuxième thèse, elle se faisait en latin. Et que ça pose évidemment des problèmes pour nous qui sommes assez peu latinistes. En tout cas, moi, il était hors de question que je puisse écrire quoi que ce soit, dans même pas une demi-phrase en latin. Mais voilà, on a comme ça les thèses de la fin du 19e et début du 20e qui sont aussi en latin. Voilà, il y avait un autre morceau d'érudition qui allait au-delà de la simple réflexion, qui était aussi une attestation de capacité de maîtrise du latin. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez les uns et les autres prolonger? Est-ce qu'il y a une uchronie que vous imaginez éventuellement dans ces années 20 et 30 qui pourrait être proposée?
Moi, j'ai peut-être quand même une question concernant l'antisémitisme, parce que En 14, l'antisémitisme est présent. Moi, je suis germaniste, donc je connais bien la partie allemande. Elle est très forte en Allemagne, elle sera encore plus forte sous la République de Weimar. Donc, comme vous avez dit que ça faisait partie des chercheurs qui, et je le comprends très bien, sont descendus du train, alors, évidemment, pas la Shoah, mais l'antisémitisme qui existait en Europe, très fortement, alors je suis désolée, je n'ai pas lu le livre, comment il a été traité? Merci.
On a été un peu lâche, il n'est pas traité. Il y a quelques allusions, mais en gros, il est peu traité. Alors, pour vous donner un petit complément, à un moment donné, un auteur qui finalement a été trop occupé pour venir nous rejoindre, mais travaillait sur une fiction. Il y avait deux idées sur lesquelles je l'avais fait travailler. Il y a certains à qui j'ai suggéré des idées. Il y en avait un, donc celui-là, il a travaillé sur une possible fiction où, aux Jeux Olympiques de 1920, qui auraient dû se passer à Berlin, et bien, au final, il y avait, comme l'Allemagne avait récupéré le bassin du Congo, il y avait donc, avec un maillot allemand, un sprinter noir qui s'apprêtait à remporter le 100 mètres aux Jeux Olympiques de 1920. Ça aurait été un peu fictionnel dans la mesure où il aurait fallu attendre un peu plus, parce qu'à ce moment-là, le sport était encore trop élitiste pour aller chercher des gens qui... Mais bon, il y a une première idée. La deuxième idée, imaginée par cet auteur, était de travailler sur le fait que la famille Dreyfus, du fait de l'antisémitisme trop marqué en France, aurait émigré à Berlin. Et racontait l'histoire de la famille Dreyfus.
Mais donc, je me permets peut-être de demander à Pascal Horis, puisque vous nous avez dit que vous étiez intéressé au conflit israélo-palestinien.
C'est vrai qu'il est résolu.
Dans mon contexte, la question est au moins abordée sous deux angles, parce qu'effectivement, on parle d'antisémitisme, mais sans donner le nom de la personne qui est descendue du train, l'idée, c'était qu'elle allait travailler sur la Palestine. C'est un peu différent. Donc, ou Israël. Bon. Donc, moi, j'évoque ces deux questions qui ont un lien, mais qui ne se superposent pas. On le sait aujourd'hui, en ce moment, tout débat sur l'antisionisme. J'évoque l'antisémitisme pour expliquer que des personnalités comme Einstein ne supportent plus l'ambiance qui est, évidemment, c'est pas du tout Hitler, mais qui est particulièrement antisémite dans l'Allemagne triomphante. Ce qui peut être très discuté. On sait à quel point, évidemment, les Juifs allemands ont été patriotes en 14, comme les Juifs français. Donc, mais je maintiens l'idée que ça ne suffit pas aux antisémites, qui leur cherchent quand même de toute façon. Et Einstein, et d'une certaine façon Freud pour Vienne, c'est devenu la triple monarchie, hein, bien entendu. À ce moment-là, on a ajouté les Tchèques, évidemment. Mais bon... C'est quand même un petit moteur d'histoire dans mon texte. Et alors, en ce qui concerne les relations, plutôt le conflit israélo-palestinien, l'hypothèse qui m'est venue comme ça au fil de la plume était que, puisqu'il y a hégémonie allemande dans le secteur de la Palestine, il y a une tendance très forte de l'Allemagne, éventuellement d'ailleurs d'Autriche aussi, enfin, des deux empires germaniques, de coloniser, et avec des considérations bibliques qui permettent de faire converger catholiques et protestants, pas de problème sur ce plan-là. Et à ce moment-là, il y a un front uni arabo-sioniste contre cette colonisation allemande, avec des pieds noirs, mais en allemand, des pieds noirs, c'est la valise ou le cercueil. Et donc à ce moment-là, évidemment, arabes, entre guillemets, et sionistes, entre guillemets, ont un ennemi commun, et donc c'est extraordinairement fédérateur. Donc c'est évidemment une considération que certains pourraient considérer comme cynique, d'autres simplement comme assez tragique. À savoir qu'il n'y a rien de tel qu'à avoir un ennemi en commun. Et là, l'ennemi, ce serait l'impérialisme allemand. Donc il y a un front uni, arabo-sioniste.
Autre chose.
Donc déjà, merci à tous. Ce serait plus une question qui est un peu plus large, mais sur la réception du livre. Comment a-t-il été reçu, d'une part par les historiens et d'autre part par les littéraires? Est-ce qu'on a des divergences justement dans cette réception? Est-ce que vous avez déjà eu des retours sur la réception du, du livre. Et oui, effectivement, tout particulièrement du point de vue des historiens, comment, à votre avis, de nos jours, comment perçoit-on l'Uchronie ? Parce que c'est vrai que ça reste quand même, en France, du moins, j'ai l'impression que ça reste quand même assez minoritaire, alors que dans le monde anglo-saxon, ça a l'air tout de même beaucoup plus développé d'un point de vue universitaire. Donc, je voudrais avoir particulièrement votre retour là-dessus. Merci.
Juste pour quelques éléments de contexte, on en parlait tout à l'heure. Le livre est sorti en septembre dernier. Il a fait sa première grande sortie à Blois, si j'ai bien compris.
Oui.
Et ça veut dire qu'il a maintenant 9 mois, et c'est pas la première fois que nos invités et les autres font, non pas tant la promotion, mais que la discussion. Donc j'imagine qu'ils ont les uns et les autres des expériences à différents niveaux, mais on ne sait pas, Xavier.
Oh oui, moi je peux vous parler, enfin, je peux parler de la presse, parce que j'ai fait pas mal de promos auprès de la presse. C'est un objet qu'ils ont du mal à ranger. Vous voyez, et alors c'est assez intéressant parce que je suis allé sur France Culture et j'ai fait aussi des trucs dans 20 minutes, donc le spectre était balayé assez large. Les gens sont gênés par ce genre de d'objet, donc on a eu une couverture médiatique tout à fait raisonnable, mais Fayard avait plutôt mis des moyens, mais les journalistes ont eu du mal à caser ce truc-là. Alors là, c'est le journaliste qui parle, je les trouve un peu paresseux, parce qu'honnêtement, on leur amenait pour le centenaire un angle en or. Parce que normalement, quand vous êtes journaliste, tiens, comment je vais traiter le marronnier du centenaire de la guerre de 14? Et bien là, mon vieux, t'avais ton rapporteur, ton angle, t'en as qui se mettent de côté. Et t'as des stars du littéraire et de l'histoire. Donc je leur faisais quasiment le pitch et le papier. Ah oui, mais non, on n'a pas l'habitude de ça. Donc voilà, ça va un peu dans le sens de ce que vous évoquez, c'est-à-dire que la presse a été assez gênée par ce truc-là, ne savait pas trop comment s'en sortir. On a parlé, mais on n'a pas parlé, on n'a pas fait des caisses, alors que on s'attendait tous à ce que, et Fayard en particulier, à ce que ça fasse plus débat. Donc ça fait plus à la limite débat dans des cercles universitaires comme celui-là, ou dans des cercles, par exemple, d'autres endroits, voire même dans des entreprises où les gens se frictionnent un peu le cerveau, qu'a priori dans un monde qui, on s'aperçoit, être un petit peu paresseux. Voilà. Mais bon, pour vous parler chiffres, aux dernières nouvelles, on en a vendu 4000 exemplaires. Pour ce genre de choses, c'est plutôt pas trop mal. Ouais.
Je pense qu'il y a beaucoup d'universitaires qui aimeraient bien avoir vendu 4000 exemplaires de leur propre ouvrage, même en collaboration ou en coécriture.
Pardon, Mathieu, je vais rajouter quelque chose. Là aussi, ce que n'aiment pas les journalistes, et à tort ou à raison, les ouvrages collectifs, disent-ils, ça ne plaît pas. Et bon, quand on voit l'histoire de France de Boucheron, il n'y a pas Boucheron qui l'a écrit, donc il y a des arguments contre ça. Mais globalement quand même, encore une fois, je vais dire du mal de ma profession, comme ils sont assez paresseux, eh ben, s'il pouvait me mettre un truc bien mainstream, bien classique, je lis juste la quatrième et je vais pouvoir faire un petit feuillet, c'est quand même plus facile. Là, il fallait lire. Ah ouais, ben là, il fallait lire un peu, parce que c'est pas facile de... Voilà. Mais si vous me lancez là-dessus, je vais continuer à l'étaler, donc on va se le calmer, surtout que c'est enregistré.
Comme Xavier le sait, mon espoir, encore ce midi, c'est qu'il y a quand même une édition allemande. Je serais quand même très, très intéressé.
Ah oui.
Et en même temps, peut-être qu'il peut y avoir aussi des réticences allemandes. Peut-être que certains...
Dans le contexte actuel,
oui, voilà. Donc, moi, j'aimerais bien, quand même.
C'est pas la première fois qu'un ouvrage en français comme ça, qui pose des questions, est transposé dans une autre langue. Hein. Ouais. Soit de la traduction extenso, soit un décalage. Pour le coup, je pense à l'histoire mondiale de l'Italie.
Les lieux de mémoire.
Les lieux de mémoire qui ont été
déclinés
en allemand, pour le coup. Et donc, ça veut dire aussi qu'il y a un vrai enjeu épistémologique dans cette affaire-là. C'est qu'est-ce que c'est que aussi la mémoire et la façon de percevoir l'histoire quand on est de ce côté-ci de la frontière ou de l'autre côté de la frontière. L'histoire transnationale, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Même si ça pose un certain nombre de questions, hein. On est là aussi sur des vrais enjeux. Est-ce que sur le côté littéraire, il y a des remarques qui vous sont remontées, soit dans des discussions, soit de façon plus informelle ?
Je l'ai fait lire à des amis romanciers qui ont trouvé que c'était assez audacieux, enfin, comme projet, hein, au départ. Ils ne savaient pas si eux, ils auraient accepté de le faire, une frilosité comme ça. Mais après, ils ont énormément... ils ont ri pour l'ami Pascal. Et puis, ils sont tombés sous le charme. Mais toujours quand même cette... ce caractère timoré, hein, quand même, qui était le mien en début. Hein. Maintenant, je trouve que l'objet est très beau et que c'est redoutablement intelligent. Mais au départ, j'aurais pas eu l'amitié avec Xavier. On m'aurait parlé d'un truc comme ça, j'aurais dit, mon Dieu, quelle horreur. Enfin, j'aurais été... j'ai appris, voilà, j'ai appris. Et c'est vrai que les choses deviennent très passionnantes quand elles deviennent complexes. Et puis, le propos journalistique n'est pas prévu pour être autrement que binaire, voire même monolithique.
Alors, la plus belle chose qu'on vous ait dit sur le livre ou sur votre texte et la pire chose qu'on vous ait dit ?
La pire chose, j'ai pas encore mais entendu d'horreur. La plus jolie, c'est faut faire un deuxième tome. Et alors, à ce moment-là, j'ai une idée, je vais vous la révéler. Je pense que
en avant-première.
Et ça va.
On n'est pas au courant.
L'Allemagne a gagné la Deuxième Guerre mondiale.
Non, c'est ça. Non. Et comme le disait, je suis un Norien ou un Noricien, je ne sais pas comment on dit, des adeptes, mais je pense que le siècle commence en 14 et se termine en 89. Et je pense que la belle Uchronie à faire en tome 2, c'est le mur de Berlin ne tombe pas.
Ah oui. À mon avis, c'est comme la bataille de la Marne, il s'en est peut-être fallu de peu.
Et Gorbatchev fait tirer, et Chabowski, enfin bref, le mur ne tombe pas. Qu'est-ce qui se passe ? On sait maintenant que Internet était déjà dans les tuyaux. Donc voilà, on peut imaginer, qu'est-ce qu'on peut imaginer avec de la technologie qui passe les frontières sur un bloc monolithique qui lui resterait. Là, je pense qu'il y a une belle histoire à raconter. Voilà.
Une question devant.
Vous avez évoqué l'Uchronie d'Eric Emmanuel Schmitt, La part de l'autre. Ce type de livre a été considéré souvent comme une réintégration ou une humanisation du bourreau. Bon, je cite par exemple Charlotte Lacoste quand elle a traité aussi le livre de quand elle a critiqué le livre d'Eric Emmanuel Schmitt, elle a parlé de l'humanisation du bourreau et les auteurs tendent à déresponsabiliser ce genre-là. Est-ce qu'il y a ici point de vue littéraire, bien sûr. Est-ce qu'il y a une construction textuelle particulière à ce type d'Uchronie qui permettent de légitimer ce genre de représentation ?
Je pense que tout est une question de ton. Moi, j'ai à aucun moment voulu réhabiliter Hitler. J'étais vraiment, vraiment gênée avec cette affaire. Il faut trouver le ton. J'ai eu plusieurs, stratégies. J'ai jamais fait, pas digérer que l'éloge du monsieur, toujours désigné par des périphrases très peu laudatives, hein. Le patient aveugle, le petit bonhomme. Et j'ai quand même glissé dans le texte des ombres très, très inquiétantes. À un moment donné, Edmund Foster, il recopie dans son journal intime le récit d'un rêve que son patient aveugle a fait. Et ce rêve, ça reste dans les limbes, enfin, la réalité, celle de la Seconde Guerre mondiale, des déportations, des trains, des hommes squelettiques dans les camps et des pyjamas rayés. Cette réalité-là, elle est dans le rêve, mais ça reste dans les limbes du rêve, puisque j'ai pas le droit de dire que c'est possible, puisque ça ne peut pas avoir existé, puisqu'Adolf Hitler n'est jamais devenu un monstre. N'empêche que, littérairement, j'ai placé dans le texte littéraire plein de petits dispositifs comme ça, tel ce rêve, pour qu'il y ait quand même une trace de la monstruosité que moi je sais. Exister, si vous voulez. Donc, tout est une question de ton, d'ajustement, de nuance, d'euphonie ou de dissonance nécessaire parfois. Voilà, c'est une grosse fausse note qui dérange. Et il y a un passage avec un poème de George Trakl, aussi Les Métamorphoses du Mal, que j'ai pas cité par hasard non plus. Et d'ailleurs, Les Métamorphoses du Mal, c'est un sous-titre. Le sous-titre du patient aveugle. Et le rêve, c'est une histoire de train. Une histoire de train avec, à un moment, l'aiguilleur qui tourne le levier pas dans le bon sens, c'est tout. Et nous, on est partis dans un autre sens. Et cet aiguilleur, il a une tenue rayée et il n'a pas de cheveux.
Si je peux me permettre, madame, vous posez une question philosophique écrasante. L'assignation à bourreau ou monstre me pose toujours un problème, parce que c'est une mise à distance.
Pour simplifier ce que je veux dire par là, on continue encore à parler d'Adolf. Hélas, bon, c'est comme ça. De toute façon, hélas, c'est parce qu'il a existé, paraît-il. Le problème, c'est pas absolument pas le supposé monstre. Moi, je déconstruirais la notion de monstre. Le bourreau, par ailleurs, je signale, c'est un fonctionnaire. Donc, le bourreau, il travaille en fonction d'un état, on va dire, pour simplifier, d'un état ou d'une église. Donc, c'est plutôt l'état ou l'église qu'il faut interroger. Le statut de la peine de mort ou de la torture à un certain moment, c'est ça, plus que monsieur le bourreau. Et le monstre, supposons que Hitler fût un monstre, vaste problème, que cette notion. Ce qui compte, c'est savoir s'il prend le pouvoir ou pas. Et si une société accepte qu'il prenne le pouvoir. Donc, c'est la société. Hitler, pour moi, c'est pas un problème. Il y a peut-être dans cette salle des Hitlers en puissance, peut-être dans la rue, là. Bon, c'est pas un problème. C'est le moment où une société leur donne le pouvoir. C'est ça qui est intéressant. Donc, moi, le monstre, non. Et donc, du coup, moi, je m'inquiète pour les sociétés. Voilà. Et c'est ce que je vous dis, vaut en 2019.
Hein. Oui, en 2019, quand même, on a encore... Bon, ça devient un phénomène, le bourreau, ça devient vraiment un phénomène. Donc, la littérature participe normalement à cette tendance de compréhension de ce type de phénomène-là. C'est pour cela, peut-être, qu'on s'intéresse à la psychologie du monstre.
Heureusement.
Spécifiquement à la psychologie du monstre.
Heureusement qu'on s'y intéresse.
Ça va nous aider quand même à surmonter ce... Merci.
Je crois qu'il y a un mot très important qui a été prononcé ici, c'est le mot de dispositif. Finalement, à la fois sur le plan scientifique et sur le plan littéraire, il y a la façon dont on va aborder la chose, la façon dont on va trouver les mots et à la fois la mécanique pour pouvoir faire passer le plus de choses possible. À partir des éléments dont on dispose, à partir de ce qu'on veut éventuellement montrer, et aussi parce que parfois on est un peu porté aussi parce qu'on écrit, j'entends par là qu'on ne sait pas exactement toujours, enfin, me semble-t-il, hein, exactement où on va arriver parfois, et ça arrive aussi dans l'écriture scientifique ou historienne, hein, on écrit un truc et puis on se laisse un peu porter et puis on arrive à un résultat qui n'est pas exactement celui qu'on avait sur son petit papier à côté, sur le plan très détaillé qu'on avait. Alors, on sait en gros où on va, on sait exactement ce qu'on veut démontrer, mais le chemin pour y arriver est parfois légèrement plus complexe, en tout cas avec des circonvolutions, des entrelacs qui font que c'est compliqué. Pour terminer, j'aurais juste une dernière question pour chacun de mes invités. S'il faut lire une uchronie ou une dystopie, est-ce que vous avez un conseil à nous donner ?
Moi, je vous l'ai déjà dit, je suis un fan du bouquin de Caillois, hein, pour Spilatte. Voilà. Alors, je ne l'ai pas relu depuis très longtemps. Peut-être que si je le lisais aujourd'hui, il tomberait des mains. Mais à l'époque où je l'ai lu, c'est-à-dire il y a une bonne 35aine d'années, j'ai trouvé ça absolument formidable. Comme je l'avais plus proche de vos âges, je vous le recommande.
J'ai cité le livre de Jean Steiner tout à l'heure, Le transport de A.H. Voilà, parce que c'est une sorte d'éclairage à toute son œuvre philosophique et sa pensée au sujet du mal. Le transport de A.H.
Alors, désolé, je vais reciter Caillois, qui est oublié, donc je pense qu'une des raisons pour lesquelles on ne le relit pas, c'est qu'on ne relit rien de Caillois, alors que sur pas mal de sujets, le jeu, etc., il a dit des choses qui me paraissent encore très pertinentes. Donc, plutôt Caillois, puisqu'il a déjà été cité, et que ça partait sur d'autres bases, Philippe K. Dick, parce que Philippe K. Dick, il part du point de vue que quelque chose est advenu, en particulier la victoire des nazis, l'Axe, etc. Et donc, il se situe après. C'est pas tellement l'advenu en soi, c'est... Ben, on vit dans une société qui a digéré le fait que ceux-là ont gagné. Voilà. Mais Caillois, c'est très intelligent.
C'est beau aussi.
Oui, c'est très beau.
Voilà, ça vous fait de la lecture, si vous ne savez pas quoi faire. Je pense que les ouvrages dont on vient de parler sont à la BU. Sinon, ils sont dans, entre guillemets, toutes les bonnes librairies. Il ne faut surtout pas hésiter à y aller. Je vous remercie beaucoup. Et puis, ceux qui veulent nous rejoindre dans la salle d'à côté pour partager quelques victuailles et puis éventuellement continuer la discussion sont les bienvenus. Merci.
Merci.